La première.
13h30, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent Dehaussay.
Nous sommes le 3 juillet 1883 dans l'édition du Gil Blas, quotidien français auquel participent des plumes notoires. Guy de Maupassant écrit à Pierre de Courcelles, qui est un homme de lettres comme lui. « Mon cher ami, tu n'y comprends rien, je le conçois, tu me crois, devenu fou. Je le suis peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que tu supposes. Oui, je me marie, voilà. Et pourtant, mes idées, mes convictions n'ont pas changé. Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que 8 maris sur 10 se sont cocus. Et ils ne méritent pas moins pour avoir eu l'imbécilité d'enchaîner leur vie, de renoncer à l'amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper les ailes à la fantaisie qui nous pousse sans cesse à toutes les femmes. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme parce que j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir 1000 bras, 1000 lèvres et 1000 tempéraments pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces êtres charmants et sans importance. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l'ai vue seulement 4 ou 5 fois. Je sais qu'elle ne me déplaît point. Cela me suffit pour ce que je veux en faire. Elle est petite, blonde et grasse. Après demain, je désirerais ardemment une femme grande, brune et mince. Alors pourquoi me marier, me diras-tu ? J'ose à peine l'avouer, l'étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé. Je me marie pour ne pas être seul.
Un jour dans l'histoire.
13h30, 14h30 sur la première.
De résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul.
Et pour évoquer donc l'histoire du mariage depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, Caroline Esguin est avec nous. Bonjour Caroline Esguin.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire avec Catherine Gauthier d'une exposition qui se tient au musée du costume et de la dentelle à Bruxelles qui s'appelle Just Married, une histoire du mariage. Alors on va s'intéresser essentiellement, je l'ai dit, on va s'intéresser au mariage bourgeois au 19e siècle. Mais il y a quand même deux dates, là, la fin du 18e siècle qui sont essentielles, 1791, 1792. Dans nos régions, on va être sous la domination de nos voisins français hein, jusqu'en 1815. Alors que se passe-t-il en cette fin 18e pour le mariage ?
Eh bien, il y a un élan de liberté et d'assouplissement des lois maritales. D'abord parce que on instaure le mariage civil, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mmh. Jusque-là, c'était le mariage religieux qui avait cours et au fond, tous les statistiques de mariage, on les devait au registre tenu par les paroisses. Mmh. À partir de ce moment-là, ça change. Nos amis français sont sous une république, je pense, et nous aussi, du coup. Et on bénéficie de ce vent de liberté. Du coup, hommes et femmes peuvent se marier de manière un peu plus libre, dans le sens où ils revendiquent en tout cas tous les deux les mêmes droits. Mmh. Et ils peuvent même divorcer facilement, ce qui est... pour le coup, ouais. Assez rare.
C'est une inégalité d'ailleurs qui sera de courte durée. En 1804, les choses changent à nouveau.
Oui, Napoléon, hein, toujours lui, qui en 1804 instaure le mariage civil avant le mariage religieux, et on y est toujours aujourd'hui. Mais surtout, il réinstaure l'inégalité entre les époux, ouais. Et il fait de la femme une mineure. Pour laquelle ouais. Son mari décide de tout.
Et puis il y a effectivement ce socle de la société qui est la famille, et c'est le mari qui est le chef de famille.
Le mari est le chef de famille, il a tout pouvoir sur elle.
Ouais. La femme est dépendante en tout. Le divorce est maintenu dans une définition qui est très stricte hein, et qui le rend difficile à obtenir. En plus, la société n'aime pas beaucoup le divorce au 19e siècle.
Non. En tout cas, pendant ces 10 années-là de la fin du 18e siècle, je crois que c'était assez la rumba, ça devait ouais. être assez joyeux. Mais après, non. Parce que si on peut obtenir le divorce, on va subir l'opprobre social, ouais. si on le demande. Mais en gros, une femme ne pouvait obtenir le divorce, ça va nous faire sourire aujourd'hui. Hein. Mmh. Que uniquement si son mari logeait sa maîtresse sous le même toit que son épouse.
Ouais.
Là, elle avait le divorce. Mmh. En dehors de ça, non.
Alors déjà, pendant dans l'Empire romain, la robe de la mariée, puisqu'on parle beaucoup de la robe de la mariée au musée du costume et de la dentelle, cette robe est blanche, le voile est jaune, et puis la tradition va se perdre. Au Moyen-Âge, les jeunes filles revêtent leur plus belle robe, mais de n'importe quelle couleur pour leur mariage. Qu'est-ce qui fait que le blanc redevient la couleur idéale pour la mariée ?
Alors, il y a plusieurs explications à cette pratique. La première et la plus évidente, c'est le modèle que va cristalliser autour d'elle la reine Victoria lorsqu'elle épouse le prince Albert. Elle se marie en blanc et elle fera des émules, mais elle fera des émules dans beaucoup d'autres domaines que la robe blanche de mariée. Mais pour que les personnes, enfin en tout cas les mariées, portent en masse la robe blanche, il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale. Et ce, à travers toutes les classes sociales. Jusque-là, on aura des pratiques de robe blanche, comme l'atteste notamment le portrait de Marie de Médicis qui épouse Henri IV au tournant du XVIe, XVIIe siècle, si mes souvenirs...
Du XVe et XVIe siècle, oui.
Là, elle l'épouse en blanc, mais au fond, c'était le lot, et c'est une deuxième raison du mariage en blanc, c'était le lot des héritières de trône. Elles allaient porter souvent du blanc, du doré et de l'argent, qui étaient trois termes similaires pour dire que c'était une couleur lumineuse. Mmh. Et au fond, c'était des mariages tellement importants qu'elles allaient porter ces couleurs très chères aussi. Ouais. Le blanc était cher, l'argent évidemment était cher, et l'or aussi. Ça, c'est une deuxième origine. Une troisième origine, c'est la mode empire qui sévit au début du XIXe siècle et qui met au fond la femme dans des drapés de mousseline blanche, à l'instar des statues grecques et romaines qu'on retrouve et qui sont à la mode, portées notamment par Napoléon et l'Antiquité. Hein. Mmh. Si on l'appelle empire, c'est en référence à cette période romaine. Et donc les femmes vont s'habiller en blanc, mais à la limite tous les jours, et donc aussi lorsqu'elles se marient. Ouais. Et on va trouver ça joli.
Et puis, il y a une raison très forte aussi qui est symbolique, c'est le symbole de la pureté.
Alors ça, je le mettrai en quatrième raison, parce que c'est vrai que c'est parfois même des symboles qu'on lui confère a posteriori, mais c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait la pureté, la virginité aussi. La pureté, elle arrive avec l'Immaculée Conception, au fond, dans les années 1850, où on associe, alors non seulement la femme était vierge au mariage, un peu comme Marie, mais en plus elle est pure. Marie est pure, donc elle est exemptée du péché originel, ouais. C'est ça. Donc on met des symboles sur cette robe blanche qui sont lourds, hein.
Et puis,
vierge, pure.
Ouais, c'est cette bourgeoisie qui veut respecter les codes, qui cherche une légitimité et qui veut respecter absolument tous les codes à l'époque.
Oui, et qui se les invente également, parce que si les codes étaient clairs dans la classe noble, la bourgeoisie, qui est cette classe émergente du 19e, cherche de nouveaux codes, et c'est vrai qu'elle en instaure, et parfois des plus rigides, ouais. Finalement.
Alors, vous l'évoquiez, il y a aussi une raison de technique, c'est-à-dire que le blanc était très, très difficile à obtenir jusque-là.
En tout cas, le blanc de blanc, hein, d'âge qui lave plus blanc que blanc, c'était compliqué, c'est vrai. Le lin était la matière textile de nos régions, et elle est un peu grège, un peu blanc cassé. La soie, c'est la même chose. Le coton arrive plus tardivement, en tout cas dans l'utilisation dans nos régions, mais ne sera pas préféré pour les robes de mariage, qui resteront en soie, certainement pas en lin. Et donc, il n'était pas évident d'obtenir un blanc très blanc, d'où le prix de cette couleur également. Et c'est vrai que très longtemps, notamment dans les classes populaires ou même dans la noblesse, on va porter une belle robe neuve pour se marier.
L'eau de Javel est découverte par le français Claude-Louis Berthollet en 1775. Nous sommes avec Caroline Esguin. L'évolution du mariage depuis le 19e siècle, c'est une exposition qui a lieu au musée du costume et de la dentelle à Bruxelles.
En ce dimanche de la Saint-Michel, en l'église d'Artigate, nous accueillons Bertrande de Rolls, fille de feu Laurent de Rolls et de Raymonde, son épouse, et Martin Guerre, fils de Mathurin Guerre et de Brigitte, son épouse. Martin veut prendre Bertrande pour femme et la garder tout le temps de sa vie. In nomine Patris et Spiritus Sancti.
Je, Martin, donne mon corps à toi, Bertrande, en loyal mari.
Je le reçois. Je, Bertrande, donne mon corps à toi, Martin.
Je le reçois.
Et moi, je vous unis en mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Un extrait du film Le Retour de Martin Guerre. C'est un film réalisé par Daniel Vigne. On a reconnu Gérard Depardieu et Nathalie Baye. C'est un fait divers qui réel, qui a défrayé la chronique au Moyen-Âge. Martin Guerre, qui revenait chez lui, était-il réellement le vrai mari de Bertrande? Alors Caroline Esguin, on l'a dit, le blanc, c'est une couleur qu'on associe aussi à l'argent, au doré, vous l'avez dit, une valeur symbolique similaire, c'est le luxe, c'est le divin. C'est une affaire de classe sociale aussi que ce blanc, et puis d'innocence. La jeune fille doit rester innocente et pure. C'est aussi pour mettre en valeur le fiancé, au fond.
Ah, peut-être, ça c'est une interprétation, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais peut-être. Mais autant, c'est vrai, le fiancé peut avoir été déniaisé, même, c'est plutôt conseillé avant le mariage, autant c'est pas le cas pour la future mariée, qui doit rester vierge et pure jusque-là.
Et effectivement, innocente des choses du sexe, elle ne sait rien.
Complètement innocente, et on sait par des témoignages oraux que ça a été parfois très traumatisant, cette première expérience sexuelle pour les femmes.
La préparation de la nuit de noces, c'est une affaire de femmes. Sur certaines gravures, on voit que on les prévient déjà de certains dangers. En effet, les jeunes filles, on prévient aussi les hommes de faire attention.
C'est vrai que les médecins au 19e siècle vont tirer un peu la sonnette d'alarme en prévenant les maris de faire attention à leurs épouses. Parce que les traumatiser, c'est aussi problématique pour la suite, puisque le mariage, ça sert quand même à procréer, pour faire un partage des richesses entre les héritiers légaux. Donc si la femme est complètement traumatisée, il n'y aura pas d'héritiers légaux. C'est aussi bêtement cette question-là. Et donc, les médecins demandent au mari de faire attention et de préparer l'épouse en faisant des petits attouchements, etc., qu'il n'y ait pas de viol comme ça légal et que ce soit terrible. Ouais. Mais il faut aussi attendre pour que... C'est un siècle où on tait beaucoup de choses, le 19e siècle. Donc c'est où l'apparence est finalement la première chose à laquelle on pense. Et c'est vrai que tout ce qui se passe sous la couche, là où dans d'autres siècles c'était beaucoup plus décontracté, ça ne l'est plus du tout au 19e siècle. Et vous disiez que c'était une affaire de femme, cette première nuit de noces. Il est vrai qu'on voit qu'à partir de la seconde moitié du 19e, la mère est là, les servantes, elles sont là pour préparer la mariée à sa nuit de noces, de laquelle le mari est exclu jusqu'à ce que la mariée soit prête. Mais il ne se voit pas avant, donc ça reste quand même quelque chose de compliqué.
Et puis il y a la morale, évidemment, au 19e siècle, une femme honnête est une femme qui ne jouit pas, dit-on. Donc beaucoup de déceptions, de dégoût, de frigidité aussi, de femmes qui vont prendre des amants, qui réagissent d'une autre manière. Alors c'est aussi une dimension économique, ce mariage au 19e siècle.
C'est surtout et avant tout une dimension économique. C'est au fond l'occasion pour le mari, parce que c'est lui, d'avoir des héritiers légaux. C'était étonnant l'extrait que vous aviez passé tout à l'heure, ce monsieur qui veut pas se marier en disant que de toute façon les hommes sont cocus, mais je crois que les premières à être cocus, c'était les femmes. Sauf si elles avaient un certain plaisir à aller tromper leur mari, mais c'était beaucoup plus compliqué pour elles de les tromper que l'inverse. Et en plus, socialement, c'était une catastrophe si une femme prenait sa liberté sexuelle. Alors il y avait les cocottes et les femmes en vue, mais une bonne bourgeoise ne faisait pas ça.
L'économie, c'est aussi la dot.
C'est la dot, en effet, quelque chose qui s'est complètement perdu aujourd'hui, heureusement. C'était l'apport financier que la famille de l'épousée allait apporter au ménage. Une femme, ça coûte, c'est bien connu. Alors la dot s'est perdue, par contre il y a d'autres choses qui ont un peu muté. Là où la femme préparait avec beaucoup de soin le trousseau, c'est-à-dire tout le linge de maison qui allait servir au ménage, et que en contrepartie finalement le mari allait lui offrir une corbeille, c'est-à-dire tous les cadeaux d'apparat que sa femme allait porter pour montrer les revenus dont il était capable également. C'était des robes de bal, c'était des éventails, des lunettes d'opéra, des bijoux, etc. Ces deux dernières, le trousseau et la corbeille, finalement, existent toujours si on considère que la liste de mariage en est l'héritière.
La dot, c'est le mari qui en est le propriétaire.
Oui, c'est lui qui gère l'argent. Donc c'est la femme va apporter... La famille de l'épouse apporte tout cet argent, mais c'est le mari qui en dispose. Et ça, on sait que des maris épousaient certaines femmes juste pour leur dot.
Le trousseau, on prépare ça, la femme prépare ça depuis qu'elle est toute petite, depuis toute jeune fille.
Mais oui, parce que vous savez quand même que les femmes, on ne va pas non plus prendre le temps de les éduquer à l'école. Ou si on les éduque à l'école ou dans les couvents, c'est quand même d'abord pour leur apprendre à coudre et à broder des jolies initiales sur des serviettes et des nappes. Je caricature, mais à peine. Hein.
Avec du fil rouge, c'est ça?
Alors non, le fil rouge, ça va être le petit code lorsqu'elles vont donner ça aux lavandières, au nettoyage. Mais c'est souvent du blanc sur blanc.
Ouais. À partir de quand est-ce qu'on va perdre cette tradition du trousseau, de la corbeille?
Ben ça, c'est une question un peu piège, parce qu'il faudrait voir dans certains milieux jusqu'à quand ça s'est perpétué comme tradition. Je ne serais pas étonnée qu'il y en ait encore après la Deuxième Guerre mondiale.
Liste de mariage aujourd'hui, c'est un peu le prolongement de cela?
Oui, clairement, ça remplace ça. Et même au fond, la liste de mariage est parfois remplacée par une non-liste de mariage, puisque certains mariés aujourd'hui se marient alors qu'ils sont déjà installés. Mmh. Et donc, ils vont demander de l'argent pour faire un voyage ou bien se construire une maison. Mais oui, c'en est l'héritier. Oui.
Alors, les accessoires, évidemment, sont très importants. On évoquait le trousseau, la corbeille, les accessoires classiques, le voile, la ceinture, la jarretière, la couronne, le bouquet. Là aussi, ça n'est pas anecdotique. Il y a une symbolique très forte là-dedans.
Il y a une symbolique pour le bouquet. Que ce soit notamment pour la fleur qu'on va choisir pour leur présenter, que pour le bouquet lui-même, qui a une histoire assez particulière, je trouve, c'est que l'attribut premier de la mariée en main, c'était le missel, c'est-à-dire le petit livre qui allait pouvoir lui permettre de suivre la messe, qui était souvent offert par son époux. Et par l'institution de ce mariage civil, qui va en fait bousculer pas mal les gens, hein, parce que si on savait faire avec le mariage religieux, on connaissait la cérémonie, on savait quelle fête faire après, etc. Mariage civil, ça se rajoute, mais que va-t-on en faire? Et au fond, progressivement, le bouquet va remplacer le missel pour le mariage religieux dans le mariage civil. Et le bouquet va prendre de l'importance, une telle importance qu'on va le naturaliser. On voit au musée un bouquet qui est mis sous un globe en verre, joliment arrangé dans un panier, et c'est un bouquet en fleurs d'oranger. Et l'oranger va avoir beaucoup de succès jusque tard, jusque dans les années 1960 quasiment.
La fleur d'oranger qui est le symbole de la fécondité, c'est ça?
Fécondité, mais aussi virginité et pureté, parce que la fleur est blanche, virginité et pureté, et puis elle va donner un beau, magnifique fruit juteux. Là, c'est la fertilité.
Ouais. On offre le bouquet, la Marie offre le bouquet à la Vierge pour demander protection. Et parfois aussi, elle le dépose sur une tombe.
C'est vrai. Après le mariage, il est courant que la mariée offre son bouquet à la Vierge ou même son voile à la Vierge. Ou bien sur la tombe d'un membre de la famille récemment mort pour au fond l'inclure dans cette fête.
L'histoire du mariage depuis le 19e siècle. Nous sommes avec Caroline Esguin.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Laurent de Hausset, Un jour dans l'histoire.
Et voilà la non-demande en mariage de Georges Brassens. Dans la Rome antique, Caroline Esguin, on pose déjà un voile sur la tête de l'épouse. Ce voile, il a une symbolique aussi?
Il a une symbolique. Et je vais même retrouver dans mon petit carnet...
C'est un passage aussi.
C'est un passage, parce qu'au fond... Nubere, qui signifie couvrir la tête, dont est couverte la mariée romaine. On lui couvre la tête d'un voile jaune ou orange. Et ça va signifier le passage de sa famille à celle de son époux. Et nubere va avoir en conjugaison, le participe passé va donner nupta, qui va donner nuptial et noce. Ouais. Donc il y a déjà une couverture de la tête de la mariée, même si le voile ne va pas se perpétrer de la Rome antique jusqu'à aujourd'hui. Il y aura des moments où la mariée ne porte pas de voile.
Ce sera un symbole de soumission aussi, le voile, notamment chez les nonnes.
C'est clairement un symbole de soumission.
Bruxelles est réputée, il faut le noter quand même, pour sa dentelle. Et donc en matière de robe de mariée, c'est important.
Tout à fait, parce que Bruxelles, la dentelle de Bruxelles a fourni des voiles somptueux en dentelle de Bruxelles. Et au XIXe siècle, en plus, quand on dit dentelle de Bruxelles, ça recouvre plusieurs types de dentelles. Et dans l'exposition, on en expose un tardif, parce qu'il date de 1930, ce qui est plutôt rare. En général, on dit que la dentelle de Bruxelles est morte avec la Première Guerre mondiale. Mais là, on a un magnifique voile fait entièrement à la main, à l'aiguille et au fuseau, donc les deux techniques, ce qui s'appelle d'ailleurs le point d'Angleterre, et qui est très similaire à un voile qui avait été offert à notre princesse Marie-Josée, qui se marie en 1930 avec Umberto d'Italie, et qui lui avait été offert par souscription nationale. Vous vous rendez compte, on faisait encore ça à l'époque. Et la dentelle était très très chère à la main, même si les prix étaient un peu cassés par la dentelle mécanique. Et là, au fond, la dentelle de Bruxelles offre encore des pièces d'exception entre deux guerres, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui.
Alors, la jarretière, bien sûr, hein, que la mariée vend aux enchères, hein, fait monter sur une table. On connaît la tradition, c'est aussi le passage, la fécondité.
C'est moins la fécondité que le passage d'une famille à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose là de la perte de la virginité, parce qu'on retire quelque chose. Ouais. Et là, il y a des symboles un peu qui finalement se sont perdus, et ça devient dans les mariages actuels quelque chose d'un peu grivois et rigolo. Mais je rappelle qu'une jarretière, ça tenait le bas de la mariée. C'est un peu idiot, mais ça avait un rôle tout à fait pratique. Et c'est vrai que retirer la jarretière, c'est-à-dire ce qui tenait le bas, annonçait la mariée qui allait se déshabiller pour passer sa nuit de noces. Donc, oui.
On a compris donc l'importance de la robe des mariées. Qu'en est-il du marié? Est-ce qu'on a eu un costume type pour le
mais
mariage?
Mais le pauvre, il était quand même souvent oublié, contrairement à ce que disait le premier témoignage. Là, c'est le marié, il portait l'habit en général. Il se faisait beau, mais tous les regards étaient tournés vers la mariée. Ce qui semble changer aujourd'hui, je trouve. Et c'est vrai que dans l'exposition, on montre les vêtements classiques qu'un marié bourgeois va porter, que ce soit l'habit noir, c'est-à-dire, on va dire, le queue de pie, tout noir avec le papillon blanc. Et puis, on a la jaquette qui est dérivée du costume anglais, finalement, avec ce fameux pantalon gris à lignes et cette veste grise également, avec une cravate très ornée, qu'on va porter, surtout si le mariage a une suite. Les personnes de la suite vont porter cet habit. Et puis, il y a aussi le costume traditionnel, enfin, le costume trois pièces avec lequel les hommes vont travailler, qui arrive dans le mariage aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, disons dans les années 50-60, il apparaît. Surtout que jusque-là, on avait aussi le costume du militaire pour les mariés. Et aujourd'hui, je trouve que les mariés deviennent audacieux. C'est assez chouette à voir. Les mariés et... hausse des couleurs qu'on ne voyait pas avant. On a un joli costume dans notre exposition qui est bleu natier, porté avec des baskets blanches et un nœud papillon noir. Je trouve que c'est très chouette.
Notre code civil est hérité, vous le disiez, du droit napoléonien. On l'a dit, il consacre au XIXe siècle l'incapacité juridique totale de la femme mariée qui est considérée comme une mineure. Alors, il y a des dates qui sont importantes. 1958, la femme peut travailler sans l'autorisation de son mari. 1976, la loi proclame l'égalité totale des époux. 1976, hein, c'est pas si vieux. À quand remonte l'usage de l'alliance qui symbolise donc l'union de ces deux...
Alors l'alliance, l'usage est très ancien pour les femmes. Et au fond, on portait l'alliance à l'annulaire, là où il y avait une veine du cœur qui bat, pour vraiment symboliquement enserrer cette veine et au fond la capturer. Et les hommes, très longtemps, n'ont pas porté d'alliance. Et au fond, encore les Anglais, eux, hein, Victoria et son prince Albert adoré par elle, eux vont porter une alliance chacun. Et la tradition que les deux mariés, donc hommes et femmes, portent l'alliance remonte à la fin du 19e siècle. Parce que ça avait un coût quand même. D'abord, symboliquement, c'était quand même fort de se dire qu'il n'y avait que la femme qui portait l'alliance, puis ça avait un coût parce qu'elle devait être en or. Ça, c'était au fond la symbolique de l'éternité du mariage. Et à la fin du 19e, les hommes vont la porter. Et le premier roi des Belges à porter l'alliance, c'est Albert Ier.
Et vous parlez de coût, c'est en effet aussi une affaire de milieu social, le mariage. Oui. Vous évoquez le noir pour le mari. Les femmes vont aussi porter du noir pour des raisons pratiques et économiques, notamment après la guerre.
Oui, alors, mais ça, on ne sait pas très bien. Oui, on connaît une pratique du noir qui est liée aux classes populaires. On voit dans les travaux des tableaux de Bruegel des mariées noires, et elles n'étaient pas en deuil. C'était juste une couleur élégante qui n'était pas non plus bon marché, mais on savait qu'après on allait reporter cette robe les dimanches, etc. Au 19e siècle, très rigoriste, les femmes passent leur temps en deuil. Et donc on sait qu'à un moment donné, la couleur noire va être à la mode pour les mariés, sans qu'on ne sache si c'est purement un effet de mode ou si c'est pour prévoir ces longues années qu'elle va passer en deuil d'un père, d'un mari, d'un oncle, d'un enfant. Et donc, là, le noir sera une couleur portée par les bourgeoises, ce qui n'était pas le cas pour leur mariage avant.
Just Married, nous sommes avec Caroline Esguin pour quelques minutes encore.
J'ai une nouvelle théorie sur le mariage. Un couple d'amoureux très épris l'un de l'autre vit en totale harmonie jusqu'au jour où, tout d'un coup, ils n'ont plus rien à se dire. Terminé. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent plus le moindre sujet de conversation. D'un coup, panique. Et puis, soudain, sourire du garçon. Car il lui semble entrevoir enfin une solution.
Laquelle ?
Il a l'idée de la demander en mariage.
Génial, génial.
Ils auront de quoi parler jusqu'à la fin de leur jour.
En somme, tu penses que le mariage sert uniquement à meubler la conversation ?
Voilà, c'est le meilleur moyen de briser la glace.
On pourrait certes y opposer une autre théorie, celle du grand amour qui triomphe.
En voilà une idée.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Quatre, mariages et enterrements, c'est le film de Mac Newell. 1989, la loi réprime le viol entre époux. Jusque-là, les relations sexuelles d'un mari avec sa femme relèvent du devoir conjugal. 1998, le régime de cohabitation légale offre un cadre juridique à deux personnes majeures qui souhaitent cohabiter, qu'elles forment un couple ou non. 2003, ouverture en Belgique du mariage aux personnes de même sexe. 2007, possibilité de divorcer sans qu'il ne soit plus nécessaire de démontrer l'existence d'une faute de son conjoint. Donc l'adultère n'est plus une cause de divorce. On va terminer, Caroline Esguin, avec le symbole incontournable du gâteau. Pas innocent, là non plus, c'est la pièce montée, bien sûr.
Mais non, en travaillant sur cette exposition, on a appris que le petit couple de personnages qu'on place au-dessus du gâteau s'appelait l'hymen, exactement comme le mariage, et que la mariée, au début, était la seule à pouvoir couper le gâteau, et ça représentait symboliquement l'hymen qu'elle allait perdre lors de la nuit de noces. Donc c'est là, on a quand même été tout à fait étonnés de ce symbole.
Un symbole très fort. Et puis après, le mari pose sa main sur l'épaule de l'épouse. Là aussi, il y a un côté un peu patriarcal quand même.
Patriarcal,
faut le dire.
Et paternaliste. Ouais. Mais aujourd'hui, normalement, les deux mariés ont le couteau en main, tous les deux en même temps, et ils vont couper ce gâteau ensemble. Donc j'espère que ça augure des changements. Mais oui, les changements sont quand même là, heureusement.
Quelques belles pièces donc, que vous avez réunies au musée du costume et de la dentelle, Caroline Esguin. On vous confie facilement sa robe de mariée, les femmes vous confient?
Alors relativement facilement, oui, je dois dire que oui. Mais là, le nombre de mariages a cruellement baissé. Ouais. Donc, et les gens ne mettent pas nécessairement beaucoup d'argent dans leur robe de mariée. Je ne dis pas nécessairement parce que les mariages que l'on voit, oui, les robes sont magnifiques et fastueuses, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Voilà, très belle exposition encore à aller visiter au musée du costume et de la dentelle à Bruxelles, rue de la Violette, c'est ça. Just Married, merci beaucoup Caroline Esguin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Un jour dans l'histoire, sur la première.